code éthique pour le permis Dominique Philippe le 30 mai 2002 à Saint-Gédéon.
Fête de la fête Dieu. Alors, je réponds aux diverses questions. Pouvez-vous revenir sur ce que vous avez dit? L'éthique religieuse n'a jamais été vécue réellement. N'y a-t-il pas un danger de faire une spéculation sur un idéal? Votre nature, elle existe, mais elle n'a jamais existé toute seule. Alors ce sera un idéal de penser la nature. Accepter une séparation n'est pas un idéal. L'idéal consiste, au point de vue de la finalité, à considérer qu'une finalité qui n'existe pas comme existant. Voilà, ça c'est l'idéal. Vous voyez ? C'est attribuer l'existence à ce qui n'a pas d'existence. Donc si je considérais l'éthique religieuse, humaine, comme existante, ce serait un idéal. Mais regarder la nature humaine en elle-même, une nature qui implique l'intelligence et la volonté, donc elle a en elle-même une capacité de découvrir l'existence de Dieu. Si mon intelligence n'était pas capable d'atteindre Dieu, l'éthique religieuse serait un idéal. Ce qui existe pour les calvinistes et les luthériens. C'est très curieux. Les calvinistes, je me souviens au début d'avoir eu ce dialogue avec ce calviniste. On était d'accord sur tout. Mais dès qu'on a touché la question de l'intelligence capable d'atteindre par elle-même l'existence de Dieu. Ça, c'est une réalité, c'est pas un idéal. Alors, immédiatement, il s'est écarté. Là, je ne suis plus d'accord. Alors, voyez, si on considère que l'intelligence est incapable d'atteindre la vérité, l'existence de Dieu, il n'y a pas d'éthique religieuse. Alors, l'éthique religieuse, c'est un idéal. Et ça explique beaucoup de choses dans l'histoire, ça. Et dans la vie où les catholiques, avec les protestants, avec Calvinisme, essaient justement de s'entendre. C'est très bien, il faut ça. Mais il faut quand même respecter la vérité. Oui. Si on insiste tellement, et le Saint-Père également, sur une métaphysique, c'est parce que l'Église maintient que l'intelligence n'est pas touchée par le péché originel. Mon exercice de chercher la vérité est touché parce que j'ai une paresse naturelle qui est beaucoup plus grande qu'elle ne devrait exister. On est tous très paresseux quand il s'agit d'exercer l'intelligence. On n'est pas paresseux quand il s'agit d'exercer l'amour. Heureusement. Mais on est paresseux en ce sens que on cherche un amour facile. C'est le grand danger. Parce que l'intelligence ne s'exerçant plus jusqu'à Dieu, on cherche un amour facile. Donc passionnel et non plus volontaire. Je crois que vous êtes très conscient de cela, les conséquences du péché originel. Eh bien, cette remarque, voyez, elle est exacte pour la position des luthériens et des calvinistes. Elle n'est pas juste pour la position des chrétiens. L'éthique chrétienne, elle n'a jamais existé seule. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas dans ma nature humaine qui est faite pour connaître Dieu et l'aimer. Naturellement. Et Dieu a été miséricordieux pour moi en me donnant la grâce pour que cette recherche de Dieu se fasse mieux. Il m'aurait donné la grâce de toute façon, même en dehors du péché originel. L'homme a été créé dans la grâce. Mais il a été créé dans la grâce et cependant, il a une nature humaine qui a naturellement la possibilité d'atteindre Dieu. Donc, possibilité d'une éthique. Il y a une finalité propre. Que cette finalité, de facto, n'existe que grâce, que par la grâce chrétienne, c'est vrai. Mais cela n'empêche pas à la nature humaine d'être une nature humaine capable d'atteindre l'existence de Dieu. Oui, c'est très important de faire cette distinction. Hein. L'éthique existe dans la mesure où vous pouvez atteindre une finalité. Or, l'homme a naturellement deux finalités. Une finalité immédiate en directement en union avec ma nature humaine, c'est l'amitié. L'amitié est une finalité éthique. L'autre finalité, parce que l'amitié n'est pas une finalité ultime, l'autre finalité, c'est découvrir Dieu et l'aimer. Ah, ça, ces deux finalités existent. Elles existent. Même si elles n'ont jamais existé à l'état pur, elles existent. Ce qui existe, alors, de facto, c'est on est pécheur et on se détourne de Dieu. On n'atteint plus le mystère de Dieu. Et on se replie sur l'homme. Et ce qui est très curieux, alors là, ce serait très intéressant à bien voir, que si on se replie sur l'homme, en supprimant cette finalité, la recherche de Dieu, on va de fait supprimer même cette finalité intermédiaire qui est l'amitié. C'est très curieux cela. Au fond, la finalité de l'amitié, elle est tellement particulière et fragile que si elle n'est pas gardée par l'existence de Dieu, l'adoration, le désir de contemplation, elle disparaîtra très vite parce qu'on cherchera une finalité qui sera du côté de l'efficience. C'est la finalité qui disparaîtra. L'humanité d'aujourd'hui est lancée vers une recherche d'efficacité qui corrompt notre nature humaine. C'est c'est la grande faute, conséquence du péché originel, c'est la grande faute aujourd'hui, c'est qu'on ne voit plus que l'efficacité. La finalité disparaît. Et alors, la finalité disparaissant, qui regarde vers Dieu, l'amitié devient très difficile. Elle est corrompue par le primat de l'efficacité. L'amitié, très bien quand tout va bien, quand on est d'accord pour l'efficacité. Mais l'efficacité n'est pas gardienne de l'amitié. Elle devient très vite l'ennemi de l'amitié. Et c'est, je crois, si on veut regarder ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment ça. On est amis tant que on recherche d'une manière efficace, c'est la même chose. Et très vite, dans l'efficacité, la rivalité et la jalousie parviennent. Qui est l'ennemi numéro un de l'amitié. Regardez ce qui se passe autour de vous. Constamment, c'est comme ça. Et, au point de vue économique, les rivalités, quand une affaire marche bien, elle devient très vite rivale d'une autre. Et la jalousie s'y mêle. Et l'amitié disparaît. C'est très curieux de voir que l'amitié est un fruit qui tend à disparaître si la contemplation disparaît. Elle n'est pas assez forte pour elle-même pour se garder. C'est une amitié intermédiaire du côté de la finalité. La finalité, c'est une très grande exigence. N'est vraiment fin que la fin ultime. La fin intermédiaire, elle est une finalité intermédiaire. Et donc, elle n'a pas assez d'efficacité pour demeurer. Vous voyez ? Je crois que ça, c'est une constatation qu'on peut faire et qui nous éclaire beaucoup. Bon, on arrivera à dire alors que l'amitié entre hommes, l'amitié entre homme et femme, et donc le mariage, ne peut exister et demeurer que s'il y a un aspect religieux, un aspect contemplatif qui fait que l'amitié demeure. Regardez autour de vous dans les et en vous et vous verrez ça. Oui, alors quand vous dites l'éthique religieuse n'a jamais été vécue réellement, il faut dire elle n'a jamais été vécue seule. Il y a toujours vent. L'homme est ou chrétien, ou religieux, ou athée. Alors, quelle est l'éthique de l'athée ? À quoi se ramène l'éthique de l'athée ? C'est intéressant à voir. Auguste Comte. Ça fait bien. Au point de vue religieux, Auguste Comte, c'est fameux. C'est très intéressant, du reste, de voir comment l'éthique religieuse chez Auguste Comte va demeurer, va faire... Alors, on tombe dans une espèce d'idole. C'est vrai. On avait, Mais ça ne dure pas. L'aspect religieux d'Auguste Comte ne disparaît pas. Et la suppression de l'aspect religieux dans la laïcité française actuelle, c'est le rationalisme français qui fait ça. En balayant, ça ne tient pas. Le sacrifice des animaux est-il une forme nécessaire de réparation ? Le jeûne, la pénitence, sont-ils nécessaires ? Peut-on, au niveau naturel, exercer la justice ou la miséricorde de Dieu ? Alors, il y a deux questions. D'abord, le sacrifice des animaux est-il une forme nécessaire de réparation ? Le christianisme a supprimé cette forme de réparation, sacrifice des animaux. Le christianisme, bien compris, parce que le christianisme est quelquefois mal compris et maintient cela. Il y a encore caché les sacrifices d'animaux. Je me souviens que je m'étais, quand j'allais régulièrement en Palestine et à Jérusalem, il y avait des traces de sacrifices d'animaux. On m'a conduit exprès voir ça. Des sacrifices d'animaux existent encore dans des religions païennes. Païennes, vous voyez ce que je veux dire. Dans des religions qui ne sont pas des religions pures à l'égard de Dieu. À la manière d'Auguste Comte. En disant, l'attitude religieuse est humaine, mais Dieu n'existe pas. Or, l'attitude religieuse n'existe qu'à l'égard de Dieu. Je ne peux pas avoir une attitude religieuse à l'égard des hommes. Alors, on se rabat sur une chose plus facile, la nature. Vous voyez ? Et c'est pour maintenir un sens religieux sans Dieu. Vous voyez ? Le sacrifice des animaux était comme dispositif, une disposition à la véritable attitude religieuse, donc comme une via, une voie pour aller jusqu'à Dieu. Si Dieu n'existe pas et qu'on maintient les sacrifices des animaux, ça ne tient pas. Parce que la disposition existe et elle est nécessaire quand la finalité existe en acte intentionnellement. Mais lorsque la finalité n'existe plus, la disposition demeure bancale. On l'accepte parce que c'est la tradition, mais elle n'est pas finalisée. Donc, la forme, le sacrifice des animaux peut se comprendre comme un état dispositif en vue du véritable sacrifice à l'égard de Dieu. Mais les animaux ont été, pas créés, mais voulus par Dieu, par sa sagesse. Non pas pour le sacrifice, mais pour nous aider à comprendre la grandeur de Dieu. Et ils ont été créés pour nous disposer au sacrifice intérieur. Et le sacrifice des animaux remplace le sacrifice de l'homme. Et il est là uniquement pour nous conduire au sacrifice intérieur. Il est voulu par Dieu pour ça. Et quand il y a le sacrifice intérieur, il n'y a plus le sacrifice des animaux. Le sacrifice du Christ a supprimé tous les sacrifices des animaux. Le jeûne et la pénitence sont-ils nécessaires ? Notre corps doit participer à notre amour vis-à-vis du prochain, vis-à-vis de Dieu. Notre corps risque toujours de passer avant notre âme. Parce que notre corps est visible, c'est un compagnon visible et un compagnon qui crie très fort lorsqu'on le néglige, lorsqu'on ne pense pas à lui. Et comme quand vous montez un cheval un peu pur sang, il faut le caresser avant. Notre corps demande d'être caressé avant, pour qu'il soit un peu tranquille, et qu'il ne soit pas là pour réclamer « Ah, je suis là, et tu ne m'écoutes pas, tu ne fais pas attention à moi. » C'est ça, la réclamation de notre corps, les cris de notre corps. « Tu ne fais pas attention à moi. » Il faut faire attention à notre corps, il faut l'aimer, il faut le caresser. Pour qu'il ne rejette pas, qu'il ne soit pas en lutte. Il y a l'âme et le corps. C'est une distinction réelle, mais ce n'est pas une séparation. Mon âme ne vit pas en dehors de mon corps. Et très facilement, on tombe dans ce dualisme. Qui a existé, du reste, ce dualisme. Le corps est corrompu, le corps est mauvais, et tout ce qui relève du corps, tout est disparaître, il ne faut plus regarder que l'âme. Non, notre corps est nécessaire pour notre vie équilibrée. Il est assumé par la grâce chrétienne, mais jamais négligé. La génie. Donc, le jeûne sert à éduquer notre corps. Il faut l'éduquer. Et c'est lui qui demande la première éducation. La première éducation à l'égard du corps, vous voyez, c'est de manger et de boire à certaines heures. C'est ça, la première pédagogie, éducation de l'enfant. Il doit manger certaines heures. C'est très curieux, ça. Parce que ça n'existe pas chez l'animal. L'animal, il mord quand il a faim. Il n'attend pas. Vous savez, c'est la remarque des gens qui me disent « L'Européen, il est curieux. » Il regarde sa montre pour savoir s'il a faim. C'est la première éducation. C'est qu'on a faim à certaines heures. Et l'enfant peut crier avant d'avoir le biberon. Et l'équilibre est entre les deux. Il y en a qui sont stricts, hein. Il criera tant qu'il veut, ça n'a pas d'importance, c'est pas l'heure. La mère ne fait jamais ça. Ça, c'est ceux qui ne sont pas mères. Le père, de temps en temps, fait ça. Il est assommant, ce gosse, il n'a pas à crier, il attend l'heure. c'est la première éducation, c'est l'ordre. Mettre de l'ordre dans notre vie végétative. Notre vie végétative, c'est notre corps. Mettre de l'ordre. C'est la première chose. C'est évident que cet ordre n'existe pas dans notre vie végétative comme vue végétative. Et même notre vie végétative, à cause du péché, est dans le désordre. Et naturellement dans le désordre. Notre vie végétative. Ça, c'est sûr. Regardez un gosse. Il y a le désordre. Et au fond, l'éducation première manque aujourd'hui. C'était la remarque que faisait quelqu'un. J'ai connu, moi, au point de vue religieux, on n'entrait pas dans la cuisine. Jamais. C'était un domaine qui était réservé aux frères cuisiniers. Réservé à ceux qui faisaient. Mais un religieux n'entrait jamais dans la cuisine. Aujourd'hui, il y a... Vous voyez. Et au fond, c'est la première éducation qui n'existe plus avec la même acuité. On redevient sauvage. C'est très curieux, ce sont des petits riens, mais c'est net. Du temps de Saint-Dominique, vous savez l'histoire, hein, pour le réfectoire, on vient dire à Saint-Dominique que la quête du matin n'a rien donné, on n'a rien. Normalement, puisqu'on n'a rien, bah très bien, ne sonnons pas pour le repas, surtout. Hein. Ce n'est pas la peine de rappeler que c'est l'heure du repas, qu'on n'a rien à manger. Saint-Dominique prend tout à fait l'autre raisonnement. Sonner l'heure du repas. Le repas, ça fait partie de notre liturgie. Et donc, on sonne à l'heure du repas. Normalement, il n'y a rien. Les anges sont venus apporter le pain. Si j'essaie de comprendre ça, c'est qu'au fond, ils respectaient cet ordre fondamental dans la vie religieuse, qui est l'heure des repas. Qu'est-ce qu'il aurait fait, cet homme, si les anges n'étaient pas venus ? Il aurait dit la prière. Et dans le repas, il aurait demandé le silence. Et de dire, c'est Dieu qui tient soin de nous, qui nous apporte le pain et l'eau. Et on va prier Dieu ensemble. On n'a pas la manne. Or, Dieu donnait la manne dans l'Ancien Testament. Donc, il donne plus que la manne pour nous. Il nous donne tous les jours le repas. C'est, vous voyez, le jeûne fait partie de la domination de l'intelligence sur le corps. L'éducation que l'intelligence doit donner à notre corps. Et cette intelligence qu'on donne à notre corps, et c'est d'abord l'ordre. Alors, le jeûne est liturgique. C'est la liturgie du repas. Et la liturgie du repas était très sévère. Chez les Dominicains, jamais de viande. on avait mis à côté du réfectoire, où la viande n'entrait pas, un domus pour les gens malades, pour les santé fragiles qui avaient besoin de la viande. Bon, ça, c'est une liturgie qui descend jusqu'au corps. Et ça fait partie, que notre corps fait partie de la liturgie, c'est sûr. L'office, c'est notre corps. Et la liturgie est d'autant plus grande qu'elle est communautaire. Mais quand on récite seul son office, il faut comprendre que notre corps fait partie de cette liturgie. Quelquefois, on est obligé de réciter l'office assis dans le train. Alors, à ce moment-là, c'est plus difficile de faire la liturgie. Mais si on récite son office seul, chez soi, eh bien, il faut comprendre que notre corps doit prier avec notre âme. Et ça, c'est la prière liturgique qui fait qu'il y a des gestes liturgiques. On se met à genoux, on se met debout. Autant que possible, on ne réside pas son office couché. Ça ne fait pas partie. Ça fait partie de la liturgie du malade. Donc, le jeûne et la pénitence sont réglés par la prudence, où on doit éduquer son corps. Notre corps nous est donné par Dieu, par nos parents. Nous devons l'éduquer en vue de la vie qu'on mène. Nous éduquons notre corps autrement dans la vie monastique que dans le mariage. Et on sent ça tout de suite. Quand on doit retourner en famille et qu'on est jeune religieux, on voit très bien qu'il ne faut pas rester trop longtemps. Parce que très vite, la vie ordinaire reprend. On a une vie ascétique, assez particulière, plus ou moins forte, la 16 est plus ou moins grande, mais c'est du même ordre. Que la 16 soit très peu forte, que la 16 soit... C'est gouverner son corps et l'offrir en victime à Dieu. On ne le tue pas. On lui permet d'offrir à Dieu ce fait de rester debout, de s'agenouiller, d'être vraiment là pour que notre liturgie soit belle. Peut-on, au niveau naturel, exercer la justice ou la miséricorde en Dieu ? Au point de vue naturel, il y a les lois naturelles. La loi a été donnée à Moïse. Avant ça, il y avait que la famille. On est passé de la famille à la loi. Et passer de la famille à la loi, c'est passer de la communauté familiale à la loi. Alors c'est très curieux. La Pâque a été donné pour le peuple, pour la loi. Ah. Elle a été donnée avant la loi, la Pâque, pour que la loi soit finalisée par le point de vue familial, et que le point de vue familial soit religieux par la Pâque. Il y a une éducation chrétienne religieuse qui est très belle. Et ça, il faut bien le regarder. La Pâque, c'est la sanctification de la communauté. Et pour nous, la Pâque, c'est l'Eucharistie. Et l'Eucharistie est la sanctification de la communauté. Je me souviens, ce problème qui m'avait été posé, c'était du côté de Jérusalem, une ermite qui était une véritable ermite, m'a dit descendre, assister à la messe et communier, c'est pour moi une grosse distraction. Est-ce que je ne pourrais pas ne descendre pour assister à la messe et communier que le dimanche, une fois par semaine, puisque pendant la semaine, c'est facultatif, c'est pas obligé. Et j'ai ma liturgie de solitaire qui me lie beaucoup plus à Dieu que cette liturgie communautaire, même si elle est sainte par la messe, par l'Eucharistie. Oui, ça c'est un problème tout à fait. Alors qu'est-ce que vous diriez ? Parce que là, il y a vraiment quelque chose à dire. Et pour la fête du corps mystique, du corps du Christ, c'est quand même très important. Ça fait comprendre que l'Eucharistie, c'est vrai, c'est communautaire. Normalement, ça réunit le peuple chrétien. Normalement, la messe est communautaire. Et la Pâque ancienne a été tout de suite communautaire pour sauver le peuple. Alors, notre Pâque à nous est personnelle aussi. L'Eucharistie, c'est un don personnel et pas uniquement communautaire. Cette brave religieuse voyait uniquement le point de vue solitaire et communautaire, sans voir que l'Eucharistie, c'est un sacrement d'amour qui est plus grand, qui est au-dessus de la distinction communautaire et solitaire. Poser cette question, ce n'était pas voir suffisamment le don unique de l'Eucharistie. Alors voyez, c'est cette question, peut-on au niveau naturel exercer la justice ou la miséricorde au nom de Dieu ? Pratiquement, cela ne s'oppose jamais. C'est toujours en tant que chrétien, donc la foi. Si vous ne croyez pas en l'Eucharistie, je comprends que ça se pose. Mais si vous croyez en l'Eucharistie, ça passe au-dessus. L'Eucharistie est bien le fait pour sanctifier la communauté et voir que la communauté est ordonnée à la sainteté personnelle de chacun. C'est pour ça que des liturgies de messe où il n'y a plus que l'aspect liturgique qui prend toute la place. Il n'y a plus que l'aspect communautaire où on a l'impression vraiment que le sacrifice eucharistique et la communion sont relatifs à la communauté. Alors ça, le sacrement disparaît et ça devient uniquement une réunion communautaire. C'est ce qui arrive de temps en temps. Voyez, parce que l'aspect artistique est ordonné à la sainteté dans la liturgie. L'aspect liturgique, l'aspect artistique n'a pas de finalité. La liturgie, c'est un art qui existe, mais qui est totalement ordonné à la sainteté, à notre union avec Dieu, avec le Christ. Quand la liturgie devient une distraction, devient uniquement communautaire, alors à ce moment-là, elle n'est plus chrétienne. Elle est un aspect communautaire. Donc, c'est très important la question, peut-on au niveau naturel exercer la justice et la miséricorde ? Je dirais, le problème ne se pose pas. Parce que vous exercez la justice au plan chrétien, la miséricorde au plan chrétien. Votre vie est chrétienne. Donc, je ne me pose pas la question de l'exercice. Je me pose la question de la spécification. Je peux très bien me poser la question, est-ce que la justice existe au niveau naturel ? Mais vous dites « exercer ». Donc vous êtes dans l'ordre de l'exercice. Donc, et là, la finalité est tout de suite présente. Donc distinguez bien ce que je disais tout à l'heure. La nature humaine existe, elle a ses exigences, mais dans l'exercice, elle est ou surnaturalisée ou naturelle, en opposition. Enfin, quelle différence entre le scandale et la révolte ? Job demande des comptes à Dieu. Mais ne le maudit pas. La révolte, au contraire, juge Dieu au nom de la justice et le condamne. Au nom de la justice et du condamné. L'injustice et le mal sont pourtant à la source de ces deux attitudes. Alors, quelle est la cause de la différence ? C'est sûr, c'est très important, ça. On peut être scandalisé sans être révolté. Là encore, c'est la finalité qui va distinguer les deux. Dans la révolte, ordinairement, il y a un scandale. On est révolté à cause du scandale, parce que la justice n'est pas respectée. Quand la justice n'est pas respectée, on est scandalisé. Vous êtes scandalisé quand vous voyez un jeune battu par quelqu'un de beaucoup plus âgé. Ça existe, ça. Et on voit ça. Et aujourd'hui, ça se voit constamment. Et là, il y a un scandale. Et c'est bon d'être scandalisé. Ne pas être scandalisé devant quelque chose d'injuste, c'est triste. C'est un manque d'amour. Être scandalisé est une chose bonne, parce que s'apercevoir d'une injustice. Vous êtes scandalisé quand il y a une injustice. Une injustice à tous les niveaux. Là, il y a un scandale. Et être scandalisé, c'est tout simplement la réaction profonde de votre sens de la justice. La révolte, c'est justement, on se sert du scandale pour rompre l'ordre dans lequel on est en trouvant que cet ordre devient faux et mauvais. Et c'est pas toujours commode, hein, de voir le scandale, on voit très bien le scandale, c'est qu'on ne comprend pas. Le scandale, c'est quand vous ne comprenez pas et que l'ordre de la justice est brisé. Alors, pour quelque chose qui n'a pas la même valeur. Vous voyez, on est révolté, on est scandalisé, exactement, on est scandalisé quand justement on fait passer devant un ordre qui nous semble inférieur au désordre. On est scandalisé quand il y a un désordre et que ce désordre nous semble ne pas respecter l'ordre antérieur qui était plus important. Donc, toujours dans le scandale, il y a un jugement. On a jugé. Et quelquefois, justement, on a mal jugé. Parce qu'on ne connaît pas tout. Et c'est pour ça qu'on est scandalisé, mais on ne le dit pas. Parce que on est peut-être scandalisé à cause d'un point de vue très personnel. La révolte, on passe à l'exercice. Vous voyez ? Toute révolte présuppose ce scandale. Et pour obtenir la révolte de tous, on montre le scandale. Et on montre qu'on est fautif de ce scandale, qu'on est soi-même engagé dans ce scandale. Et d'où la seule manière de sortir de là, c'est la révolte. On passe à l'exercice, la révolte. Alors c'est très juste que Job, demande des comptes à Dieu, mais ne le maudit pas. Donc il est scandalisé. Il voit que si Dieu est infiniment bon, infiniment juste, il ne peut pas accepter cela. On est scandalisé. Mais on n'est pas nécessairement révolté. On dira, je suis scandalisé, mais je suis scandalisé à cause de ce que je vois. Mais je ne connais pas tout. Je ne sais pas des raisons profondes. D'où on n'est pas révolté. L'injustice et le mal sont pourtant à la source de ces deux attitudes. Oui. Du moins, l'injustice, le scandale et la révolte, tous les deux reposent. La révolte repose sur justement un désordre. Le scandale repose sur un désordre. Ils sont pourtant à la source. L'injustice, le désordre provient d'une injustice. Et le désordre est un mal. Donc tous les deux sont source. Alors, quelle est la cause de la différence ? C'est que le scandale est personnel et la révolte est publique. Vous passez du point de vue personnel au point de vue communautaire. La révolte est publique, tandis que le scandale est personnel. Mais pour qu'il y ait révolte, il faut qu'il y ait scandale, normalement. Et le scandale est plus ou moins grand. Et la révolte, quelquefois, est beaucoup se manifeste beaucoup plus. Le scandale, on l'a grossi beaucoup pour qu'il soit visible à tous. Et on prêche la révolte. Vous voyez, on ne prêche pas le scandale, tandis qu'on peut prêcher la révolte. Parce que justement, dans la révolte, il y a la manifestation. Il y a quelque chose de visible. Le scandale est intérieur. Je suis scandalisé. Vous voyez ? Et quelqu'un vous dit, je suis scandalisé de votre attitude. Bon, ça peut très bien se faire. Qu'est-ce qu'on lui prendra ? Vous ne voyez pas tout. Vous ne voyez qu'une partie. Et en voyant uniquement cette partie-là, vous êtes scandalisé, ce qui est normal. Très souvent, c'est à cause de ça, on est scandalisé, parce qu'on a notre point de vue qui ne coïncide pas avec l'autre point de vue.